Voilà, bonjour. Et
je ne me présente pas, vous me connaissez pour la plupart.
Donc effectivement, le sujet est délicat, en tout cas touche, j'en suis bien conscient, notre vécu quand on parle de souffrance. Voilà, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Alors hier, j'ai demandé à, comme tu disais justement, j'ai voulu m'adresser à, plutôt aux non-chrétiens, aux non-croyants, et donc j'ai demandé une seule présupposition en commençant mon exposé, c'était « Est-ce que vous pouvez simplement considérer la possibilité de ne pas tout comprendre ce qu'un Dieu tout-puissant fait ?» Et c'était le minimum que je pouvais demander à l'auditoire pour ne pas les perdre tout de suite par rapport à cette question « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» Alors ce matin, je vais aborder la question avec en supposant d'autres choses, même si la question, je l'ai dit aussi hier, la question qui m'était posée, c'est « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» Donc ça veut dire que déjà, Dieu fait partie de l'équation. Mais je n'ai pas voulu quand même trop penser que c'était le cas. Alors ce matin, évidemment, je ne vais pas essayer de vous prouver l'existence de Dieu, même si on pouvait le faire. Je ne vais pas simplement vous demander d'imaginer que y a des choses que notre intelligence finie ne puisse saisir face à un Dieu infini. Mais la chose la plus importante dans tout ce que je vais partager avec vous ce matin, face à la réalité de notre vécu, c'est la réalité des promesses de Dieu contenues dans sa parole. Et j'ai rien d'autre à vous donner. J'aimerais bien vous passer de la pommade, vous dire « croyez-moi ». Mais ça n'a aucune valeur par rapport à ce que la parole de Dieu nous apporte. Alors merci Mélanie pour ton introduction. C'est la réalité de nos vies. C'est la réalité de l'existence. Ce week-end, il y avait les assises du réseau FEF et Martin Sanders était l'invité et il nous a parlé du mentorat. Et l'art de poser des questions. Et la question qu'il pose, souvent, quand il rencontre quelqu'un, ou qu'il s'adresse à un groupe de personnes, c'est « Est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur ?» Et il dit ça dans n'importe quel groupe. Si vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur, alors quittez la pièce. Et quand vous aimerez Dieu de tout votre cœur, venez écouter ce que j'ai à vous dire. Et à ce moment-là, il y a des gars qui lui tapent sur l'épaule, il dit « Mais tu sais pas à qui tu parles ? Il y a des gens dans cette salle qui ont des millions de dollars qui sont prêts à investir dans ton ministère. » Mais cette question, elle nous interpelle, et je crois que c'est très important par rapport à ce que Dieu veut nous dire et ce qu'il nous dit. Est-ce que ce matin, honnêtement, je peux répondre oui à la question « Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur ?» J'ai 8 points. Plus la conclusion. Et ce n'est pas exhaustif. La première chose que je voudrais qu'on clarifie, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal. John Stott a dit « Il ne fait aucun doute que ce soit là et dans toutes les générations le plus grand défi lancé à la foi chrétienne. L'intensité de la souffrance paraît répartie de façon aléatoire et donc tout à fait injuste. » J'ai pas besoin de décrire. Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? Deux des pistes que j'ai données hier, face à l'auto-limitation que Dieu, à laquelle Dieu se soumet, c'est qu'il a choisi de laisser fonctionner le système naturel de cause à effet. Et que Dieu aussi utilise la souffrance, ou que la souffrance est un système d'alarme pour le corps humain. Mais une fois que la souffrance est là, Dieu ne gaspille aucune occasion qui lui permette d'utiliser cette souffrance dans des intentions rédemptrices. On ne peut nier que la souffrance ait bien des valeurs positives sans aller jusqu'à prétendre qu'elle soit intrinsèquement bonne. Ce qui est bon dans la souffrance, ce n'est pas le fait de souffrir, mais ce sont ses effets positifs, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance, il n'envoie pas la souffrance pour en tirer du bien, mais si, par l'effet de la loi de causalité ou du système d'alarme, elle est là, alors Dieu en tire des effets positifs pour notre bien. Carson nous dit dans sa sagesse, et pour des raisons qu'il ne nous a pas révélées, le Seigneur a laissé à Satan une certaine puissance, mais celle-ci reste toujours sous son contrôle. Ainsi Jésus parle d'une femme que Satan a tenue liée durant 18 ans. Et l'apôtre Paul lui-même reconnaît que son écharpe dans la chair est l'œuvre d'un ange de Satan. Dieu, et c'est Schaeffer qui parle de ça aussi, s'est auto-limité afin que sa créature soit effectivement libre. Et en ce faisant, Dieu donne à l'homme la possibilité de faire les mauvais choix. Quels peuvent être les effets positifs de la souffrance? Elle nous évite parfois de plus grands désagréments, je ne veux pas développer. Elle est parfois le moyen d'accéder à de plus grandes bénédictions. Elle est une occasion de nous examiner. Elle donne à Dieu une occasion de nous examiner. La souffrance contribue à notre progrès spirituel. Dieu nous apprend des leçons précieuses par la souffrance, et la souffrance nous permet de glorifier Dieu. Souffrance, moyen de croissance. Selon Jacques, les hommes les plus heureux sur la terre sont ceux qui passent par les épreuves. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Ah, qu'est-ce que je suis heureux ce matin, vous ne pouvez pas savoir. On m'a crevé les quatre pneus de ma voiture. Et puis bon, la voiture, voilà, effet divers, hein, ça c'est plutôt masculin encore une fois. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque rien. Et la souffrance va avoir cette capacité de nous faire grandir, de ne pas permettre qu'on se contente de ce que nous savons, de l'expérience que nous avons avec Dieu, mais face à cette épreuve qui suscite tellement de questions, elle va nous pousser à persévérer, mais à aller plus loin dans notre attachement au Seigneur. Hébreux 12 nous dit, Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est un des objectifs de la souffrance et un objectif positif. En tant que parent, alors attention au mot souffrance, nous éduquons nos enfants. Nous les limitons d'une manière ou d'une autre, parce que nous pensons que c'est bon pour eux. Et c'est en fils que Dieu nous traite. Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour but, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste, vécue dans la paix. Et donc, la souffrance est une école. Encore une fois, Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance. Dieu ne crée pas la souffrance. Mais quand la souffrance est là, Dieu l'utilise. Et ici, on a un aspect qui concerne notre croissance spirituelle, notre conformité à qui il est et une vie qui produit des fruits pour sa gloire. La question de la souffrance, et ça c'est un point que je n'ai pas voulu aborder hier, parce que je trouve que on peut donner une idée fausse de la réalité de ce que nous vivons ici-bas en tant que chrétiens. C'est parler de la souffrance par rapport à l'éternité, face à l'éternité. Et si on développe j'ai choisi de ne pas le faire hier soir parce que je me dis finalement, le non-chrétien qui entend ça peut avoir cette idée que ben, nous on est complètement déconnecté de la réalité et qu'on est prêt à absolument tout supporter en bas, ici-bas, parce que de toutes les manières, il y a le paradis. Et alors, il y a quelque chose, je vais le développer, il y a quelque chose de juste, dans cette, évidemment, dans la réalité de l'éternité. Mais pour un non-chrétien, ce qu'il ne peut pas comprendre, c'est que cette réalité de l'éternité nous aide à vivre ici-bas. Et on n'est pas simplement déconnecté de cette réalité en attendant que ça aille mieux. Alors je crois que des non-chrétiens, des gens qui entendent ce genre de discours pour la première fois, ne sont pas capables de faire cette différence et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Je vais juste prendre un passage qui me touche beaucoup pour parler de cela. C'est la fin d'Hébreux 11. Parce qu'on connaît tous Hébreux 11, n'est-ce pas? Les héros de la foi. Ah! Et combien de fois, sans jeu de mots, on se sent tout petit hein, quand on commence à ouvrir la galerie. Sauf que la fin du chapitre ouvre un autre registre. Alors, je lis à partir du verset 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais, alors il y en a déjà cité pas mal, hein, si je voulais parler en détail de Gédéon, remarquez, Gédéon, bref, de Barak, de Samson, héros de la foi, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermer la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles, ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Qui suis-je ? D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Et là, vous voyez, on ouvre une perspective. Refuser d'être délivré pour quelque chose de meilleur. Et il vient de nous dire, il va nous dire hein, ce que c'est. Refuser d'être délivré de quoi ? Ils ont enduré les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénuée de tout, persécutée, maltraitée. Eux, alors on pourrait dire, ils n'avaient pas la foi. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé ces gens à cause de leur foi. Tu crois ou tu ne crois pas ? Mais on ne peut pas évaluer la qualité de notre vie spirituelle selon les circonstances de nos vies. Et honnêtement, aujourd'hui, qui d'entre nous, s'il a réellement le choix, va choisir de ne pas être délivré ? En plus, en sachant que finalement, Dieu peut très bien nous délivrer, s'il le veut. Mais là, il est question d'hommes dont la terre n'est pas digne et qui pourtant, approuvés par Dieu, ont vécu ces choses terribles et n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis. C'est que Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Et là, il dit pour nous. Il ne dit pas pour eux. Je crois que je pose la question là. Nous sommes inclus dans cette galerie de héros, vainqueurs ou vaincus, délivrés ou non, pour participer à quelque chose de meilleur. Ils ne devaient donc pas parvenir sans nous à la perfection. Ça rejoint le premier point dont je parlais. Mais vous voyez combien on est, en tant que chrétien, obligé de croire que Dieu a pour nous un plan qui nous dépasse complètement. Et là, c'est tellement clair que ça ne dépend pas de notre prière, ça ne dépend pas de notre foi, mais que Dieu est absolument au contrôle de toutes les circonstances de notre vie. Avec un seul objectif, de nous amener à la perfection. Et c'est ce qu'il fait. Et il le fait très bien. Et il va y arriver. D'autres versets nous le disent. Nous sommes encore à l'école. La souffrance face à l'éternité. Et maintenant, je parle de quelque chose que je ne connais pas. C'est la souffrance et la gloire de Dieu. De Corinthiens 4. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, on est d'accord avec ça ? Ceux qui ont plus de 20 ans, 30... L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant. Alors, j'étais habitué, je lis la Semeur. Je me suis acheté une belle Bible à Noël. Second disait, nos légères afflictions du moment présent. Soit c'est une affliction, soit ce n'en est pas une. Mais qu'est-ce qui fait qu'une affliction et ce meurt traduit détresse, soit légère selon second, ou insignifiante selon Sommer? Soit c'est une détresse, soit c'en est pas une. Soit c'est une affliction, soit c'en est pas une. Qu'est-ce qui fait qu'une affliction, une détresse devient insignifiante? À cause de l'effet. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Notre problème, c'est qu'on n'a pas la machine pour peser la gloire. Par contre, la détresse, je sais ce que ça veut dire. L'affliction, je sais ce que ça veut dire. Mais la gloire, un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. Et Paul nous ouvre cette fenêtre. C'est pourquoi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est à ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, selon ce texte, est plus réel et plus permanent que ce qui est visible. Nous ne pouvons pas faire face à la souffrance si on n'ouvre pas la fenêtre de l'éternité et de la gloire de Dieu. Si nous n'envisageons pas la réalité de l'éternité et de la gloire de Dieu que nous allons partager en tant qu'enfants de Dieu, qui est déjà la nôtre en Jésus-Christ, mais qui n'est pas encore réalisée en plénitude. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre n'est qu'une tente et détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu. Romains 8, à partir du verset 15, il parle de notre filiation. Quelqu'un qui a prié en disant « Papa ». Mais des fois, c'est douloureux pour certains d'entre nous de dire « Papa ». Alors, vous êtes pardonné si vous ne pouvez pas appeler Dieu « Papa ». Mais ça n'empêche pas le fait que la réalité, c'est que nous avons au ciel un Dieu qui nous aime et qui a fait de nous ses enfants, et dont nous avons à comprendre et à développer, avec qui nous devons développer notre relation. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Il y a un passage obligé. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Je vous ai dit ce matin que je vous demandais de croire dans les promesses et dans la réalité des promesses de la parole de Dieu. Il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui va se révéler en nous. Et ensuite il développe en disant combien la création elle-même attend avec impatience de sortir de ce mal-être, de cette misère. Et c'est ce que j'ai utilisé comme argument hier. Mais pourquoi on aspire au bien? Pourquoi on veut le meilleur? Ça vient d'où? Parce que nous faisons partie de ce plan de Dieu qui veut rétablir, complètement réconcilier avec lui tout ce monde qu'il a créé et qui aujourd'hui ne lui rend pas gloire comme il devrait. Mais nous soupirons après ce temps où Dieu va révéler sa gloire et où toute la création et ses créatures révéleront sa gloire. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Et ça, ça peut être une souffrance qu'on vit en tant que chrétien, quand on voit pas seulement notre misère, mais la misère du monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous avons la sécurité en Jésus-Christ, mais nous sommes encore dans le domaine de l'espérance quant à la délivrance de tous ces malheurs, de tous ces maux, de toute cette souffrance qui nous entoure. Je viens de dire que nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Est-ce que c'est juste une question de rhétorique? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, on est convaincu de cela ce matin? Ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Le texte ne nous donne pas la réponse. C'est un raisonnement a fortiori. Puisqu'il n'a pas même épargné son propre fils. Bien évidemment, il va lui donner tout en lui, avec lui, par grâce. Parce qu'il a réalisé le plus grand, il va réaliser le plus petit. Christ a enduré les coups, les crachats, la moquerie, la croix. Dieu va nous donner tout avec lui. Et là on dit, c'est quoi ce tout? On continue. Le texte. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là commence la liste. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Souffrance? Épreuve? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses terribles qu'il vient de citer, est-ce que Dieu ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas la maladie. Ça ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas l'accident, ça ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas la peur, mais ça veut dire que dans toutes ces choses, la grâce en Jésus-Christ sera toute suffisante. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix nous met au bénéfice tout suffisant de sa grâce pour vivre et endurer tout ce que nous allons rencontrer ici-bas. D'ailleurs, Paul le dit, j'ai cité cette écharpe dans la chair, au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu. Oh Paul, 3 fois prière fort, délivré. Ma grâce te suffit. Et vous savez, la souffrance, c'est cette école dans laquelle nous apprenons que la grâce de Dieu est toute suffisante. Parce que c'est quand je suis faible que sa puissance se manifeste en moi. Et la souffrance est un instrument que Dieu utilise pour nous affaiblir. Et nous nous prions, délivre-nous. Et Dieu ne répond pas. Paul, Dieu a répondu à Paul. Je change rien. Même si c'est un ange de Satan qui est à l'origine de cette écharde. J'ai le contrôle, je garde la main. Mais c'est ma manière de t'affaiblir pour que ma grâce repose sur toi et que ma puissance soit manifestée. Dieu, en Jésus-Christ, nous donne toute la grâce nécessaire pour endurer l'épreuve. Ça, je peux en parler, je suis bien là. Mais il faut le vivre. Et ça fait écho à notre vécu. Mais on passe à côté de ce que Dieu est en train d'accompagner, d'accomplir dans nos vies, si on ne réalise pas cela. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train d'accomplir son œuvre en nous. Il veut que nos vies le glorifient. Il veut manifester sa puissance au travers d'êtres faibles comme nous. Et pour ce faire, il utilise ce qui peut nous affaiblir. Tous les domaines dans nos vies où nous pensons que nous sommes tout suffisants. Et Dieu va utiliser la souffrance pour nous révéler les domaines qu'on ne lui a pas encore abandonnés. Et où il veut travailler en nous. Non pas pour nous écraser, mais pour révéler sa gloire. Un exemple biblique, l'histoire de Joseph. Ancien Testament. J'aime beaucoup cette histoire. Le psalmiste en parle. Psaume 105. On raconte l'histoire de Joseph après avoir lu Romains 8, 28. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Peut-être dans vos Bibles, il y a marqué « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». J'aime bien faire de Dieu le sujet de ces toutes choses. Je pense que les versets que j'ai lus précédemment m'encouragent à le faire. Dans le psaume 105, au verset 17 et 18, il y a marqué, le psaume 105, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Il, et c'est de Dieu dont il est question, il envoya devant eux un homme. Vous avez déjà prié, Seigneur, envoie-moi. Ouais? Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Ah. Lorsque Étienne va raconter l'histoire du peuple d'Israël dans Acte 7, qu'est-ce qu'il dit? Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Dieu ou les patriarches? Étienne ajoute, mais Dieu fut avec lui. Mettez-vous dans la peau d'un ado de 17 ans. Petit chouchou de papa-maman, parce que c'est le dernier-né, d'accord? On lui passe un peu tous ses caprices. On lui a fait un beau costume, il fait le fier le gamin, pas complètement coupable, peut-être qu'il n'y a pas vraiment une équité au sein de la famille, peu importe. Le gars, il est un peu rêveur, dadada, en tout cas il prend la tête des frères aînés. Vous connaissez l'histoire, je vais vite. Chapitre 37 de Genèse, il est vendu à cette caravane de Madianites. 17 ans. Et puis tu lis au verset 39, Dieu fut avec lui. Ça c'est quand il est à la maison de Potiphar. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est avec toi quand tu es dans la maison d'un Potiphar et dont tu es l'esclave et le serviteur? Ben, ça veut dire que t'es bien traité. Jusqu'au moment où sa femme décide de prendre une voie qui n'est pas vraiment selon ses convictions. Il y a marqué, Dieu, l'Éternel fut avec lui. Le gars, il se part en courant, il laisse son vêtement sur place. N'empêche qu'il est condamné et qu'il est mis en prison. 17 ans. Les glandes, elles marchent à fond, là. Et je veux dire, il est esclave. Autant je ne peux pas pardonner à un David avec Bathsheba, autant je me dis, Joseph, après tout, il n'a pas choisi l'endroit, quoi. Mais il a décidé de ne pas désobéir à Dieu. Il a des convictions qui l'emmènent en prison. Est-ce qu'il ne s'est pas posé des pourquoi? Est-ce que les pourquoi n'étaient pas là dans la vie de Joseph? Alors tu lis au chapitre 39, verset 21, que l'Éternel fut avec Joseph. Avec Joseph en prison. Ah, c'est mieux quand même. Alors là aussi, on lui donne les petits droits, il s'occupe des prisonniers et tout, parce que le gars, il est fiable. Mais je pense que quand même, tous les matins, il a peut-être cette prière, Seigneur... Et d'ailleurs, tu le lis au verset 40, quand après qu'il ait révélé les rêves de ces deux gars, là, quelques services de Pharaon, il est oublié. Il leur a dit, parlez de moi à Pharaon. Il l'oublia. Comment tu réconcilies ça? Dieu est avec toi, et le moyen de salut, il oublie d'en parler. Vous savez, le cri de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parlons de souffrance. Je crois qu'on ne choque pas Dieu quand on lui demande pourquoi. Jésus-Christ a crié de cette manière. Et Joseph a crié pareil de sa prison. Joseph a 30 ans quand il sort de prison. Il a passé 13 ans avec Dieu. Qui est-ce qui signe? Et 20 ans plus tard, parce qu'il y a eu 7 ans de famine, et on est déjà dans la période, il y a eu 7 ans d'abondance, pardon, et on commence les 7 ans de famine quand ses frères viennent. Joseph a 39 ans quand il dit à ses frères, « Je suis Joseph, que vous avez vendu. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. » Psaume 105. Et là, on a la réconciliation du psaume 105 et de acte 7. Vous m'avez envoyé. Vous m'avez vendu. Mais vous imaginez quelle œuvre il faut faire dans la vie d'un homme, d'un petit fanfaron de 17 ans, pour le transformer en un homme de 40 ans, qui peut dire à ceux qui sont les responsables coupables, sans aucune ambiguïté, des 13 années qu'il a passées emprisonné, esclave, pour leur dire « Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie !» C'est pas une leçon que tu apprends à l'école du dimanche, c'est pas en 24 heures qu'on apprend ça, mais c'est l'école de Dieu. Et moi, je voudrais qu'on prenne l'histoire de Joseph à l'envers. Il va y avoir une famine. J'ai besoin de sauver mon peuple. Il me faut un homme de confiance à un endroit stratégique. Je vais prendre un gars de 17 ans, faible, arrogant, plein de lui-même, et je vais le façonner pendant 13 ans. à la dure école de l'injustice, de la solitude, de l'oubli, jusqu'à ce qu'ils puissent s'imprégner de qui je suis, afin qu'ils puissent délivrer mon peuple. Vous savez que les frères de Joseph n'ont jamais rien compris ? Quelques chapitres plus tard, quand Jacob meurt, les frères de Joseph inventent une histoire. Au cas où Joseph voudrait se venger, on n'a qu'à dire que notre père a dit que... Et Joseph, il pleure. Vous savez, ce que Dieu fait dans notre cœur, c'est personnel. Et je pense que la tristesse de Joseph, c'est de dire, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Dieu a fait dans ma vie et ils n'ont pas compris ce que Dieu était en train de faire au travers de moi pour eux. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Et c'est là qu'on a la clé. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien. C'est la bonne traduction. Dieu ne change pas le mal en bien. Dieu pense le mal en bien. C'est la méchanceté, la jalousie, nous dit Étienne, des frères qui l'ont emmené en prison. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et il va utiliser cette situation en bien pour la vie de Joseph et pour sauver un peuple nombreux. L'exemple de Jésus, pour terminer. Un verset très mystérieux dans Hébreux 5. Au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il y en a toutes les raisons de penser que ce passage se rapporte à la prière de Jésus à Gethsémané. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. En quoi Jésus a été exaucé ? Lorsqu'il a prié celui qui pouvait le délivrer de la mort. Jésus a été délivré de l'insoumission à son Père. La prière de Gethsémané, si cette coupe peut, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a été exaucé. Jésus a prié pour tenir le coup à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et il a été exaucé. Et la volonté du Père s'est accomplie. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Il a demandé au Père que sa volonté s'accomplisse plutôt que la sienne. Alors je termine avec Hébreux 12. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins. Les héros d'Hébreux 11, du début du chapitre, et ceux qui attendent une meilleure résurrection à la fin du chapitre. Joseph, Jésus. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Et vous connaissez le verset suivant. À cause de la joie. Et je mémorise second et je vais lire semeur. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Jésus a prié de ne pas défaillir. Il a été exaucé. Et pourtant, il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a des questions face à la souffrance qui sont légitimes, d'un point de vue terrestre, d'un point de vue humain, mais que nous devons, dont nous n'avons pas la réponse ici-bas, mais que nous devons mettre en perspective avec l'éternité, avec la personne de Dieu, ce Dieu compatissant, aimant, parfait dans toutes ses œuvres, qui a le but ultime pour chacun d'entre nous de nous amener à la perfection. Et il va utiliser, ou plutôt il ne va pas laisser perdre un seul élément de ce qui nous arrive dans notre vie pour nous amener à la perfection. Quand on passe au travers, j'ai un ami, c'est Neil Anderson en l'occurrence, qui compare ces moments d'épreuve au passage au travers d'un entonnoir. Et tu vois, la partie large, ça va. Mais il y a un moment, tu dis, je ne passerai pas au travers. C'est pas possible de passer par ce trou. Et puis, quand tu sors de l'autre côté, tu es libéré. Sauf que tu n'as plus la même forme. Je vous laisse l'image pour ce qu'elle vaut. Mais il y a des moments dans nos vies où on dit, pourquoi ? C'est pas possible que je passe par là, c'est trop dur. Et tu pries. Et peut-être que tu n'as pas de réponse. Mais de l'autre côté, tu es une autre personne. Et ça, c'est l'école de Dieu. Dieu qui est capable, parce qu'il est Dieu, d'utiliser tous ces moments pour nous transformer, pour nous conformer à l'image de Christ. Alors, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, rappelons-nous ces choses, persévérons, ne perdons pas courage. Oui, il y a des moments où il est légitime de poser le pourquoi, mais que la parole de Dieu soit dans ces moments-là notre assurance. Dieu est avec moi. Dieu est au contrôle. Et Dieu utilise pour sa gloire tout ce qui est en train, tout ce qu'il permet qu'il m'arrive ici-bas. Père, je te remets toutes les situations pour lesquelles nous crions vers toi. Pourquoi ? Et Seigneur, je te demande que, par ta grâce, nous puissions réaliser que nous avons en Jésus-Christ, que tu nous donnes en Jésus-Christ tout ce qui est nécessaire, ici-bas, pour passer au travers de ces épreuves. Et Seigneur, nous attendons aussi le jour où nous serons avec toi dans la gloire et où nous comprendrons, tel un Joseph, pourquoi tu nous as fait passer par là. Seigneur, nous sommes, tu es le potier, nous sommes l'argile. Et on a des craintes et on ne comprend pas ce qu'on dit quand on te dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Mais nous voulons croire, Seigneur, avec espérance et avec joie, comme Jésus lui-même, que tu es en train de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets nos pensées, je te remets le fond de nos cœurs et que tu puisses être cette réalité et ce réconfort dont nous avons besoin jour après jour. Au nom de Jésus-Christ, amen.